Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Je ne vous ai jamais raconté jusqu'ici d'histoire d'aviateur. Eh bien, je vais me rattraper aujourd'hui en vous racontant l'histoire d'une aviatrice qui s'appelle Dorine Bourneton. Vous êtes aviatrice, donc pilote de voltige aérienne, mais vous avez un truc en plus ou un truc en moins. Hein, c'est selon qu'on voit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Vous êtes paraplégique, en fauteuil roulant, paralysé des membres inférieurs. Et cette paralysie vient précisément d'un accident d'avion dont vous avez été victime en 1991 à l'âge de 16 ans et que je vais raconter dans un instant en m'appuyant sur le récit que vous avez vous-même publié il y a quelques années chez Robert Laffont, « La couleur préférée de ma mère ». J'ai écrit cette histoire avec Claude Mandibile, alors ça c'est très drôle parce que c'est Claude Mandibile qui vous a aidé à écrire votre livre à l'époque et c'était aussi elle qui m'a aidé à écrire mon récit. Nous avons les mêmes auteurs, Dorine. La réalisation est comme toujours de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Venez avec moi, je vous emmène chez les faucheurs de marguerite. Dans un petit aéroclub du Massif Central, l'aéroclub d'Aulnat, près de Clermont-Ferrand. Vous voyez là le petit avion qui s'apprête à décoller? Le monsieur là, oui, et la petite fille à côté de lui. C'est elle, Dorine. Elle a 8 ans. Et le monsieur, c'est son père, Jean-Paul. Il est pilote amateur et souvent, il emmène sa fille. Allez Dorine, tu montes à l'arrière de l'avion, tu vas me servir de sac de sable.
De sac de sable? C'est quoi papa?
Eh bien, tu vas servir à équilibrer l'appareil, comme un sac de sable. Et puis tu pourras regarder le paysage. Elle adore ça, Dorine. Coller son nez à la vitre et se remplir les mirettes des paysages en dessous. Et de temps en temps, son père lui laisse les commandes.
Vas-y, tiens, essaye. Voilà, tu bouges pas et tu dis rien à ta mère. Hein.
Ou que non. C'est leur secret. La mère n'était déjà pas d'accord pour que son mari prenne des cours de pilotage, alors sa fille... Tiens, c'est l'occasion de vous présenter les Bournetons. Ils habitent Noirétable, un village de la Loire encerclé de montagnes. Un endroit, je vous le dis, où les hivers sont redoutables et les étés beaucoup trop courts. Jean-Paul et Isabelle Bourneton sont taxis et ambulancier. À la campagne, pour s'en sortir, il faut faire les deux. Lui est rêveur, perché sur ses nuages. Elle est beaucoup plus froide, dure, pragmatique. Ce sont des gens de la campagne, ils ne parlent pas beaucoup. Ils ont deux enfants, Yann leur aîné, et donc Dorine. Et vous avez compris que le père, Jean-Paul, se passionne pour l'aviation. Pas uniquement voler. La maison regorge de livres, le Mermoz de Joseph Kessel par exemple, les exploits de l'aviatrice Hélène Boucher, les récits des pionniers de l'aéropostale. Ce qui explique que Dorine, à force de baigner là-dedans, à force de passer tous ses week-ends avec son père, dans les meetings de la région, finit par avoir l'envie de voler, elle aussi. À 15 ans, Dorine s'inscrit à l'aéroclub d'Auvergne. La théorie d'abord, et puis assez vite son premier vol aux commandes, suivi d'une quinzaine d'heures de vol. Et puis à un moment, faut y aller. Dorine n'a pas encore 16 ans, son instructeur la lâche en solo. Seule au décollage, seule en vol, seule à l'atterrissage. Le premier vol se passe bien, mais le deuxième, horrible. Le vent souffle de travers. Au moment d'atterrir, Dorine n'arrive pas à s'aligner dans l'axe de la piste. Elle doit remettre les gaz et recommencer. Le stress qui monte d'un coup, les pieds qui tremblent. Commentaire par radio de son instructeur.
Eh bien, c'est pas gagné, hein. Va falloir encore travailler.
Jamais je n'ai éprouvé une peur aussi intense. Ce jour-là, j'apprends que bien piloter, c'est aussi savoir maîtriser ses émotions. 6 mois plus tard, son aéroclub propose à ses adhérents de visiter la base de Canadair de Marignane. Et Dorine et son père sont les premiers à s'inscrire. Et les voilà donc qui s'apprêtent à décoller pour Marignane. Parce qu'ils y vont en avion, bien sûr.
Bien, on partira à deux avions, un Piper et un Cessna.
Vous deux, vous serez passagers dans le Cessna. Le vol doit durer 2 heures et demie, ok ?
On est au mois de mai. Normalement, il devrait faire beau. Mais ce matin-là, sur le massif central, le ciel est noir, le ciel est sombre. Et les conditions climatiques sont épouvantables. Les pilotes de l'aéroclub ont beaucoup hésité avant de partir.
Bon les gars, on y va. Hein. Mais s'il y a trop de nuages, on fait demi-tour, ok ? D'accord ? Allez, c'est parti.
Ils y vont à 2 avions, un Piper et un Cessna. Dorine monte dans le Piper et son père dans le Cessna. Normalement, ils auraient dû être ensemble, mais pour une question de poids, Dorine a changé d'avion au dernier moment. Et la voilà donc qui décolle vers 8 heures. Dans ce Piper, immatriculé Roméo-Juliette en route pour Marignane. Dorine est à l'arrière. À ses côtés, il y a Mathias, un de ses copains de 17 ans, qui a décroché son brevet de pilote hier. Cette balade, c'est sa récompense. Et puis devant, il y a le pilote et le copilote. Elle ne les connaît pas. Passé le décollage, Dorine et Mathias détachent leur ceinture pour s'avancer un peu, pour voir le tableau de bord, quoi. Ça les intéresse, tout ça. Les voyants, les manettes, les cadrans, c'est leur truc. Et puis soudain, l'avion se retrouve au milieu de gros nuages. Noirs, très noirs. Oh nom de Dieu! Mais c'est trop tard pour faire demi-tour. Le Cessna, derrière, réussit à changer de route, mais pour le Piper, c'est trop tard. Dorine est paniquée. Elle s'enfonce dans son siège, elle boucle sa ceinture. N'aie pas peur, Dorine. Tu vas t'en sortir, ça va aller. Ça va aller. Elle entend le copilote qui hurle au pilote.
Putain, qu'est-ce que tu fous ? Tu vas nous faire casser la gueule !
Elle sent l'avion qui perd de l'altitude, qui descend, qui touche la cime des arbres et qui s'écrase dans un fracas sur un rocher. Pendant ce temps-là, l'autre avion, le Cessna, atterrit à Marignane. Fou d'inquiétude. Ils ont vu le Piper s'enfoncer dans les nuages. Depuis, ils n'ont pas cessé d'appeler par radio.
Roméo Jules, vous m'entendez ? Roméo Jules, répondez !
Personne n'a répondu. Alors ils ont compris. Enfin, ils pensent avoir compris. Le Piper s'est écrasé. En tout cas, c'est ce que pense Jean-Paul, le papa de Dorine.
Mais putain ! Putain, qu'est-ce qui m'a pris d'emmener ma fille ? Putain !
Il faut dire que la région dans laquelle le Piper a disparu a très mauvaise réputation. Certains l'appellent les Bermudes des Cévennes. On dit que les instruments de vol se dérèglent quand on passe au-dessus, comme dans le triangle des Bermudes. Et là maintenant, il faut que je vous explique. La règle dans l'aviation, c'est qu'on ne lance des opérations de secours que quand l'avion en perdition est censé avoir consommé tout son carburant. Donc on calcule, le Piper a du carburant pour voler jusqu'à 11h30, on va attendre 11h30. Terrible, terrible! Au même moment, Dorine est en train de reprendre conscience. Elle ouvre les yeux. Elle est au milieu d'une forêt. Il y a de la neige partout autour. L'avion. Mon Dieu, elle est dans un avion. Alors elle se redresse. Elle détache sa ceinture. Et là, elle tend la main vers le pilote. Il est mort. Le visage écrasé contre le tableau de bord. Le copilote gémit. Elle l'entend. Et puis après, plus rien. Il est mort lui aussi. Elle cherche Mathias, elle le voit près de l'avion, il a été éjecté, il ne bouge pas. Elle crie
« Au secours ! Au secours !»
Mais ses cris vont s'enfoncer dans la neige alentour. Elle a froid, elle est habillée d'une salopette de toile, elle claque des dents. Elle veut sortir, elle veut bouger, son pied est coincé sous le siège du pilote. Alors elle pleure, et puis elle hurle, et puis le temps passe. Combien de temps, elle ne sait pas, des heures. Et puis soudain, le bruit d'un hélicoptère.
Au secours ! Je suis là ! Au secours !
Mais l'hélico s'éloigne et elle se sent partir. 12 heures se sont écoulées. Il est presque 20 heures. La nuit est en train de tomber. Dorine est frigorifiée. Et soudain, elle entend des bruits de pas. Des bruits de pas au loin, dans les fourrés.
Je suis là ! Je suis là ! Par ici !
Elle voit de la lumière qui transperce les taillis. Des ombres s'approchent. Les secours, enfin ! Ils sont deux à venir à la rencontre de Dorine. Et franchement, c'est un miracle. Ils s'appellent Jean et Philippe. Tout l'après-midi, ils ont participé aux recherches. Et puis la nuit venant, ils ont décidé d'arrêter. Ils avaient vu l'hélicoptère de la protection civile passer une dernière fois. C'était fini. Ils étaient en train de rentrer. Et là, sur leur radio, ils ont entendu un crachotement.
Et regarde, l'appareil a dû capter des modulations. Ça doit être la balise de l'avion.
Et puis juste après...
Jean ? Jean, t'as entendu ? Non. Si, si, écoute. On dirait un gémissement. Il y a quelqu'un par là.
Alors il court vers l'épave du Piper et il tombe sur Dorine.
Amenez-moi à la maison. J'ai froid. Je veux voir ma mère. Je veux qu'elle me réchauffe. Amenez-moi, s'il vous plaît. J'ai froid. J'ai froid.
Jean lui donne son blouson et il prévient.
On a retrouvé le Piper. Trois personnes Delta Charlie Delta et une jeune fille transit froid, gravement blessée, avec suspicion de colonne. Prévoir du matériel de désincarcération à vous.
Delta Charlie Delta, vous avez compris. DCD. Dorine n'a pas entendu ce qu'a dit Jean. Suspicion de colonne. Remarquez vaut mieux, hein. Un enfer à la fois. Isabelle, la maman de Dorine, a passé la journée devant son téléphone, à attendre. C'est le maire de Noirétable qui la prévient.
Dorine est vivante. Ah, c'est une miraculée. Elle a juste une fracture ouverte de la cheville et au pied. Rien du tout, quoi. Ah, c'est incroyable.
Dans son livre, Dorine écrit... Quelques mois auparavant, mes deux tantes s'étaient rendues chacune chez leur voyante qui leur avait prédit un terrible accident dans la famille. Elles voyaient du blanc autour de la victime. Mes tantes s'étaient précipitées chez mon père. Elles lui avaient dit « JP, sois prudent, deux voyantes ont vu un accident. Avec ta blouse blanche de ton ambulance, tu dois faire attention. » Comment imaginer que peu de temps après, mon Piper blanc s'écraserait dans la neige immaculée ? À l'hôpital du Puy-en-Velay où Dorine a été emmenée, le chirurgien vient voir les parents.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, madame.
Voilà, votre fille a une fracture au pied. Ça n'est pas ce qui m'inquiète. Mais elle a aussi un gros hématome au bas de la colonne vertébrale qui compresse les terminaisons nerveuses de sa moelle épinière. J'ai peur que les lésions ne soient définitives.
Autrement dit, Dorine n'a plus de sensibilité en dessous du bassin. Elle ne remarchera pas. À 16 ans, Dorine est paraplégique. Les parents sont catastrophés. Ils n'ont pas le courage de le lui dire. Même quand son père l'accompagne en ambulance au centre de rééducation de Saint-Génis-Laval, il ne lui dit rien. Et donc elle ne sait rien. Au centre de rééducation, on l'entoure, on la bichonne. Elle croit qu'elle remarchera, qu'il faut juste être patiente. Et le père est gêné.
Ouais, ma fille, ça va sans doute revenir. Mais tu sais, ça sera plus comme avant. Comment ça, plus comme avant? Je pourrais refaire du vélo et aller danser quand même, non? Ça sera difficile, Dorine. Mais tu devrais y arriver avec de la volonté.
Il a l'air bien hésitant. Et du coup, Dorine s'inquiète. C'est vrai que les semaines passent et qu'elle ne sent toujours pas ses jambes. On dirait qu'elles sont mortes. La première fois qu'on l'a mise dans le fauteuil roulant, elle a eu la sensation qu'elle ne se relèverait plus. Alors un jour, elle en parle à sa kiné.
« Dis donc, ça met bien du temps à bouger tout ça. Il serait grand temps que ça revienne, non? Tu crois pas ?»« Tu sais, Dorine, on peut pas savoir pour l'instant, mais il est bien possible que tu ne remarches plus. »
Je reçois ces mots comme un coup de poing dans le ventre. Mes oreilles se mettent à bourdonner. Une boule cuisante monte dans ma gorge et mes yeux se remplissent de larmes. Le verdict vient de tomber. Perpétuité. Le soir, elle hurle sa colère.
« Pourquoi vous m'avez caché que j'allais rester ventousé dans ce putain de fauteuil? Pourquoi ?»
En une seconde, elle voit tout ce à quoi elle va devoir renoncer. Les balades sur la plage, les virées en boîte de nuit, les courses dans les bois, le vélo et bien entendu les garçons. Ils ne voudront plus d'elle. Alors elle pleure pendant toute la nuit. Et puis le matin, elle admet. Elle a digéré. Et dès le lendemain, elle reprend les séances de kiné et de musculation. Et 4 mois plus tard, elle est de retour à la maison. Mais là, tout se complique. La maison n'est pas du tout adaptée. Avec son fauteuil, Dorine se cogne partout. Elle veut donner un coup de main à sa mère dans la cuisine.
« Mais sors! Tu vois bien qu'il n'y a plus de place !»
Et son frère est sans pitié.
« Ça pue la pisse dans ta chambre !» Et tes jambes qui pendouillent, là. C'est horrible.
Bref, Dorine a le sentiment de déranger. À la fin du mois de septembre 1991, c'est la rentrée. Et Dorine se retrouve au lycée, en classe de première. Ses copains reviennent de vacances, ils sont bronzés. Elle débarque en fauteuil roulant. L'impression de ne plus rien partager avec eux. Hormis avec 2 nouveaux copains, Franck et Manu. Eux, ils savent trouver les mots.
Tu marches pas, tu roules, et alors? Ça remet pas en cause l'attraction terrestre. Hein.
L'année suivante, elle obtient son bac, malgré tout. Et après? Où aller? Après, que faire? En 1993, un article sur son histoire paraît dans une revue d'aéronautique. Et dans la foulée, Dorine reçoit une lettre du président de la section aviateurs invalides de l'aéroclub Toulouse Midi-Pyrénées. « Chez nous, il existe des avions équipés de commandes manuelles. Si vous voulez venir essayer, on vous attend. » Voler à nouveau? Est-ce que d'abord, elle en a envie? Oui. Est-ce qu'elle en est capable? Ben ça, faut aller voir, faut essayer. Alors elle y va. Et donc à Toulouse, avec un instructeur qui s'appelle Pierre, Dorine s'initie à l'utilisation du malonnier. C'est une commande manuelle qui remplace les commandes de pied, qui remplace les pédales. C'est pas évident, hein. Il faut tout réapprendre. Et pendant des mois, elle s'entraîne tous les jours, bien décidée à passer son brevet de pilote amateur. Même si certains essayent de l'en dissuader, comme un médecin.
Vu votre état, faudrait mieux oublier, mademoiselle.
2 ans plus tard, en survolant l'hôpital où travaille ce médecin, Dorine ne pourra pas s'empêcher de lui tirer la langue.
« Hello docteur, regarde qui est en haut !»
Rien ni personne ne la détournera de son objectif. Elle veut passer son brevet de pilote privé. Et ensuite, elle veut devenir instructrice professionnelle. Et le jour du brevet arrive. Nous sommes en avril 1995, 4 ans après son accident. Le ciel est couvert et l'examinateur désagréable. La partie technique du test dure plus de 2 heures. Et quand c'est fini, la météo est tellement mauvaise que l'examinateur préfère reporter l'épreuve en vol de 48 heures. Mais 2 jours plus tard, la météo n'a pas changé. Tant pis, on y va. En vol, le flot de questions commence.
Ces nuages, à quelle altitude? Dangereux? Stable? Évolutif? Ce carré noir sur la carte, là, qu'est-ce que c'est? Et le rouge?
Et brusquement, le vent forcit, et Dorine rate son premier atterrissage.
Ne vous laissez pas emporter par l'avion!
Ça dure 3 heures. Atterrissage, décollage, atterrissage, décollage. 3 fois. À un moment, l'examinateur coupe le moteur en vol, d'un coup, pour simuler une panne. Et là, Dorine sourit. Son instructeur lui a fait le coup 100 fois. À un moment, la tour de contrôle l'appelle.
Yankee Zulu, position. Je cherche ma route.
Elle s'est perdue, mais elle ne panique pas. et elle retrouve sa route et elle atterrit impeccablement.
Vous êtes un peu tête en l'air, mademoiselle, mais vous savez garder votre calme. Donc vous l'avez, votre brevet. Mais il va falloir encore vous entraîner, hein ?
Et 6 mois plus tard, Mère Mosette, comme l'appelle son père, s'embarque avec 2 équipiers dans un rallye entre Toulouse et Saint-Louis du Sénégal, sur les traces des pionniers de l'aéropostale. Et elle remporte la course. Mais elle a toujours en tête de devenir un jour pilote professionnel. Or pour l'instant, c'est interdit aux handicapés. Elle en parle pendant le rallye à un ancien responsable de la direction de l'aviation civile.
« Je comprends pas. On nous permet de passer le brevet de pilote et puis ensuite on peut pas travailler. Hein ? Moi, je demande pas de piloter des avions de ligne. Je veux juste être instructrice. Surveiller des feux de forêt, convoyer du fret. » T'as raison, Dorine. T'as raison, les handicapés font peur à la profession. Mais il n'y a que des personnes comme toi qui peuvent faire avancer les choses. Alors vas-y, fonce.
C'est bien son intention. Et là, c'est pas une aventure qui commence. C'est un combat. Et Dorine se trouve une alliée, Brigitte Révelin-Falcoz. Elle n'est pas handicapée, mais elle a aussi dû faire son trou. Elle est commandante de bord, elle est pilote de ligne. Et il lui a fallu 7 ans, diplôme en main, pour trouver un poste. Partout, on lui disait.
Je suis désolé, madame. Hein, pas question de confier à des femmes les commandes de machines aussi coûteuses que des avions de ligne.
Et quand on lui a fait confiance, c'était pas gagné non plus.
Mesdames et messieurs, la commandante Brigitte Révelin-Falcoz et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord de cet Airbus. Le temps de vol sera de 50 minutes, atterrissage prévu à l'heure.
Un jour, dans l'avion, apprenant que la pilote est une femme, une vieille dame se met à paniquer.
« Je veux ma valise ! Donnez-moi ma valise, je veux descendre !»
Donc, elles n'ont pas en commun ces deux-là le fait d'être handicapées. Elles ont en commun la nécessité de se battre pour arriver à ce qu'elles veulent. Un jour, au cours d'une réunion à l'Aéroclub de France, Dorine veut parler, une fois de plus, de la situation des pilotes invalides. Un responsable de l'aviation civile la coupe sèchement.
« Oh vous, ça suffit, hein ! On a déjà entendu parler de votre histoire. Sachez qu'il est hors de question qu'une personne handicapée soit un jour pilote professionnel. Ok, c'est clair ?»
Anéantie par cette humiliation publique, Dorine retourne à sa place, les larmes aux yeux. Son combat va durer des années. Mais à la fin, c'est Dorine qui gagne. En novembre 2003, le secrétaire d'État au transport, Dominique Bussereau, signe un arrêté ministériel qui ouvre la licence professionnelle de pilote aux handicapés moteurs. Combien de fois nous avait-on dit « c'est impossible » et pourtant nous, nous l'avons fait. Quelques années plus tard, Dorine croise un directeur de l'aviation civile.
Ah ! Dorine, il faut que je vous raconte une histoire qui va vous faire énormément plaisir. Un pilote de ligne a dû être amputé d'un pied. Il porte maintenant une prothèse. Il aurait dû perdre son aptitude médicale. Eh bien, figurez-vous qu'on a décidé de lui donner une seconde chance. Et ça, c'est à vous qu'il le doit.
Dans cet accident, j'avais plus à perdre en perdant ma joie qu'en perdant mes jambes.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.